La parole du jour avec Louis Bruère, diacre.
Auditeurs de Radio Grand Ciel, bonjour. Je vous propose aujourd'hui la lecture commentée de Saint Léon le Grand sur les Béatitudes, avec comme pour sous-titre la loi de la Nouvelle Alliance. Un petit mot sur Saint Léon le Grand. Saint Léon Ier, 45e pape de l'Église catholique, pontificat de 440 à 461, sous son pontificat se tint le concile de Chalcédoine, le plus important de tous les précédents, puisqu'il affirma l'union en la personne du Christ des natures humaines et divines sans confusion ni séparation. Entrons maintenant dans le texte. Premier paragraphe. Notre Seigneur Jésus-Christ, mes bien-aimés, prêchait l'évangile du royaume, il guérissait toutes sortes de maladies à travers toute la Galilée et la renommée de ses miracles se répandait à travers toute la Syrie. De grandes foules affluaient de la Judée entière vers le céleste médecin. En effet, la foi des hommes ignorants est lente à croire ce qu'elle ne voit pas et à espérer ce qu'elle ne connaît pas. Il fallait donc que, pour être fortifiés par l'enseignement divin, leur esprit soit stimulé par des bienfaits corporels et des miracles visibles. En éprouvant une puissance si bienfaisante, ils ne douteraient pas que sa doctrine apportât le salut. Fin de citation. Saint Léon le Grand ne fait pas un commentaire direct sur les béatitudes, mais explique que celles-ci sont devenues la loi nouvelle. En effet, les béatitudes font écho ou sont le prolongement du décalogue, les 10 commandements, donnés par Dieu à Moïse sur le mont Sinaï. Dans ce paragraphe, Saint Léon le Grand insiste sur la prédication de l'Évangile par Jésus, tout en guérissant toutes sortes de maladies. Les foules affluaient de plus en plus vers lui pour être guéries. Mais Jésus a une autre idée derrière la tête, ou plutôt une démarche pédagogique adoptée à cette foule. Ces miracles avaient pour effet de toucher ceux qui ignorent la foi, ou qui sont longs à croire, ou ceux encore qui n'espèrent pas ou plus. Pour Jésus, c'est clair. Avant de soigner leur vie spirituelle, ils commencent par guérir leur corps. N'est-ce pas ce que nous faisons dans notre pastoral? Lorsque nous rencontrons un malade ou une personne touchée par un deuil récent, nous commençons par l'écouter, la réconforter, avant de lui parler de la foi proprement dit. Et c'est ce que nous devrions tous faire, et faisons, même lorsque nous rencontrons des personnes sans problème particulier, qui se sont éloignés de la foi. Deuxième paragraphe. Donc, pour transformer les guérisons extérieures en remèdes intérieurs et rendre la santé aux âmes, après avoir guéri les corps, le Seigneur s'éloigna des foules qui l'entouraient, gagna la retraite d'une montagne voisine et y appela ses apôtres pour les imprégner des plus sublimes enseignements du haut de ce lieu symbolique. Par le caractère même du lieu et de l'action, il se désignait comme lui-même fait qui, jadis, avait daigné s'entretenir avec Moïse. Mais alors, c'était avec la plus terrible justice, à présent avec la plus sainte douceur, afin que s'accomplît la promesse annoncée par le prophète Jérémie, « Voici que des jours viennent, parole du Seigneur, où j'établirai une alliance nouvelle avec la maison d'Israël et la maison de Juda. » Après ces jours-là, parole du Seigneur, je mettrai mes lois dans leurs pensées, je les écrirai dans leur cœur. » Fin de citation. Nous avons vu que Jésus ne s'arrête pas aux guérisons du corps. Dans ce paragraphe, saint Léon le Grand indique qu'il invite ses apôtres à gagner la montagne voisine pour, je cite saint Léon, les imprégner des plus sublimes enseignements du haut de ce lieu symbolique. Fin de ce passage. En fait, il leur livre une véritable catéchèse, comme on dirait aujourd'hui. Qu'est-ce qu'une catéchèse ? C'est l'acte et le contenu d'un enseignement destiné à comprendre la révélation et sa cohérence d'ensemble. Pour le dire plus simplement, c'est la formation permanente pour chrétiens adultes. Et saint Léon précise que ces révélations sont d'une extrême douceur de la part de Jésus, puisqu'elles touchent le cœur. Il nous arrive parfois de nous plaindre de ne pas comprendre tel ou tel passage de la Bible, mais faisons-nous l'effort pour que notre foi grandisse. Des moyens simples mais riches sont à notre disposition, par exemple des partages d'évangiles en petits groupes, la récitation du chapelet avec une équipe du rosaire, des pèlerinages, des retraites spirituelles, etc. Sans oublier la lecture personnelle quotidienne de la parole de Dieu et la participation aux messes dominicales. Alors, nous serons en mesure de dire, comme le prophète Jérémie cité par saint Léon, je recite, « J'établirai mon alliance avec la maison d'Israël et la maison de Juda. » Fin de citation de ce passage. Entendons par là l'humanité tout entière. Troisième paragraphe. Celui qui avait parlé à Moïse parla donc aussi aux apôtres, dans le cœur de ses disciples, la main du Verbe comme celle du scribe rapide, écrivit les commandements de la nouvelle alliance. Ce n'était plus comme autrefois au milieu des nuées épaisses, ni par des tonnerres et des éclairs effrayants qui empêchaient un peuple terrorisé d'approcher la montagne. C'était dans la tranquillité d'un entretien accessible à tous les assistants. Ainsi, la douceur de la grâce supprimait l'âpreté de la loi et l'esprit d'adoption enlevait la crainte de l'esclavage. Fin de citation. Le Seigneur a toujours dialogué avec son peuple. Hier, il parlait au milieu des nuées épaisses, des tonnerres et des éclairs effrayants qui terrorisaient le peuple. C'était la vision des gens de l'époque. Aujourd'hui, Dieu parle encore en son Fils par l'Esprit, mais cette douceur divine qui révèle, qui réconforte, qui apaise, c'est l'amour qui prédomine et non la peur. Pourquoi s'en écarter ? Ce dialogue entre Dieu et les hommes se manifeste de deux façons, à un peuple ou en individuel. À un peuple, regardez la prise de conscience de l'écologie de la part d'un grand nombre d'individus de par le monde. Le rapport Sauvé demandé par les évêques de France pour faire la lumière sur les abus sexuels dans l'Église. En individuel, je pense à une de mes petites voisines de 13 ans qui, après une longue interrogation suite au décès de son oncle d'une quarantaine d'années, demande le baptême. Qui peut être derrière ces alliances si ce n'est pas Dieu lui-même ? Quatrième et dernier paragraphe. Quelle est la doctrine du Christ ? Ses propres paroles le proclament. Ceux qui désirent parvenir à l'éternelle béatitude doivent découvrir les degrés de cette ascension vers un bonheur infini. Heureux, dit-il, les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. On aurait pu se demander de quel pauvre parlait la vérité si en disant « heureux les pauvres », il n'avait pas précisé de quel genre de pauvre il fallait l'entendre. Et il aurait paru suffire pour mériter le royaume des cieux de connaître le dénuement que beaucoup subissent par le poids et la rigueur de la nécessité. Mais en disant « Heureux les pauvres de cœur », le Seigneur montre que le royaume des cieux doit être accordé à ceux que recommande l'humilité de l'âme plutôt que le manque de ressources. » Fin de citation. Tout ce qui a été évoqué dans les trois premiers chapitres nous a préparés à accueillir le bonheur des béatitudes. Saint Léon précise que c'est la doctrine du Christ. Personnellement, je parlerai plutôt de pédagogie. De quoi s'agit-il ? Il s'agit de préparer tous ceux qui sont à la recherche du vrai bonheur, de découvrir les degrés d'ascension de cette haute vertu. En d'autres termes, le bonheur a un prix, celui de l'effort. Quand Jésus dit « Heureux les pauvres de cœur », il sous-tend que ce chemin est ouvert qu'à ceux qui sont humbles de cœur. Faisons un petit examen de conscience. Quelle nouvelle alliance ai-je reçue récemment m'invitant à me rendre plus heureux ? À demain !